Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Lievin Mbwinga. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, les regards sont tournés vers New York où s'ouvre la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs chefs d'État y sont attendus et Félix Tshisekedi de la RDC est déjà sur place. Mais comment fonctionne cette institution? Quelle est sa composition? Réponse dans un instant. Et puis un mot sur la grève des enseignants du secteur public qui persiste dans la ville de Bandundu. Ces professionnels de la CRE continuent toujours à réclamer l'amélioration de leurs conditions salariales au gouvernement. Résurgence des violences armées en Ituri avec des attaques ciblant des camps de déplacés. Avec ces interrogations, quelle solution pour atténuer les tensions et favoriser une paix durable? Thomas Ougembero, responsable du Centre de recherche multidisciplinaire pour le développement en Ituri, est notre invité. Il nous en parle dans ce journal. L'actualité de ce jour est focalisée sur New York, où s'ouvre ce mardi la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernement sont attendus et devraient chacun prononcer un discours sur la marche du monde. Le président de la RDC est arrivé dimanche dernier à la tête d'une grande délégation des ministres et autres acteurs sociaux. Il prononcera son discours ce mercredi, un discours qui sera retransmis en direct sur Radio Kapi. À quelques heures de cette session, peut-on rafraîchir la mémoire de nos auditeurs sur le fonctionnement de cette institution? Emmanuel Elamegi pour plus d'éclairage.
L'Assemblée générale est la principale instance d'élaboration des politiques des Nations unies. Elle rassemble les 193 pays membres qui composent l'organisation. La session offre un espace de discussion multilatérale unique pour débattre de l'ensemble des thèmes couverts par la Charte des Nations unies. Chacun des États membres des Nations unies dispose d'un vote égal. Elle prend également des décisions clés pour l'organisation, notamment en ce qui concerne la nomination du secrétaire général sur la recommandation du Conseil de sécurité, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité ainsi que l'approbation du budget de l'ONU. L'Assemblée générale se réunit chaque année en session ordinaire de septembre à décembre à New York et à d'autres périodes selon les besoins. Elle examine des questions spécifiques dans le cadre de points principaux ou secondaires de l'ordre du jour qui conduisent à l'adoption de résolutions. À préciser que le débat général débute ce mardi 24 septembre et se poursuivra jusqu'au samedi 28 septembre avant de s'achever le lundi 30 septembre 2024. Le thème proposé pour le débat général de la 79e session est « Ne laissez personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ».
Pour être complet, rappelons qu'en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les États membres de l'organisation ont voté dimanche dernier l'adoption d'un texte visant notamment à réformer les institutions internationales. Les États-Unis ont abordé cette nouvelle réunion de l'Assemblée générale fort de nouveaux engagements pour créer des Nations unies plus efficaces et en particulier un Conseil de sécurité plus inclusif, représentatif et légitime, selon les mots de l'ambassadrice américaine à New York. Retour au pays avec une autre ouverture, mais dans un tout autre chapitre cette fois. Il s'agit du début du procès sur les atrocités du Rwanda en RDC à la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est à Arusha, en Tanzanie. C'est dans ce cadre que le vice-ministre de la Justice et contentieux électoral, Samuel Mbemba, conduit une forte délégation congolaise à Arusha pour porter le plaidoyer de Kinshasa. Plus d'éclairage avec Blaise Ndongala Mayanda.
Hormis les fronts militaires, Kinshasa lance la bataille judiciaire pour obtenir la condamnation de Kigali, qui commet diverses exactions sur la population civile dans l'est du pays. Le gouvernement a introduit une requête devant la Cour de justice de l'EAC qui fixe l'ouverture du procès pour ce jeudi 26 septembre. Cette première audience constitue une session d'introduction au cours de laquelle la RDC est appelée à prouver la culpabilité du Rwanda qui, avec sa rébellion, violerait l'acte instituant la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les accusations congolaises contre les Rwandais portent sur la présence militaire rwandaise dans l'Est de la RDC ainsi que les pillages viols, massacres perpétrés dans cette partie du pays. Sur la base de ces plaidoyers, la Cour devra alors statuer sur la violation éventuelle de l'acte fondateur de l'EAC par les Rwandais. Le vice-ministre de la Justice et Contentieux électorale, qui est sur place à Arusha, croit dur comme fer à la victoire de la RDC dans ce procès, étant donné que le dossier est suffisamment documenté par les différents rapports des experts de l'ONU.
Et puis la série noire continue à Goma, au Nord Kivu. Encore deux personnes tuées par balles et une autre grièvement blessée par arme blanche au quartier Virunga, en commune de Karisimbi, en une seule journée à Goma. Ces deux personnes ont été tuées lors d'un braquage perpétré par des bandits armés non autrement identifiés dans la soirée d'hier lundi. La société civile noyée de Karisimbi qui tire une sonnette d'alarme face à cette insécurité grandissante dans la commune de Karisimbi demande l'implication personnelle du gouverneur, le général-major Peter Chirimwami, car selon lui, dans ce contexte de l'état de siège, la gestion de la sécurité repose majoritairement sur les polices et militaires. Bernadine Diambo revient sur les faits.
Parmi les deux personnes tuées figure un changeur de monnaie victime d'un braquage au quartier Virunga dans la soirée d'hier lundi vers 18h30 local, mais aussi l'un des braqueurs qui a été commis à la garde d'un officier des FARDC qui habite non loin de la station Kisirani, selon des témoins sur le lieu du drame. D'autres malfrats qui ont opéré sur une moto ont pris fuite avec les effets de la victime. Toujours selon nos sources, un cadre du parti Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo Birek et un expert au bureau d'études du gouverneur militaire du Nord Kivu a été également grièvement blessé à la tête par des armes blanches. C'est un groupe de bandits armés qui ont attaqué la victime répondant au nom d'Ivan Semurai, qui a personnellement identifié ces malfrats selon nos sources. Les mêmes sources ajoutent que la victime a été vite acheminée dans une structure de la place pour des soins appropriés. Sa vie serait en danger, affirment nos sources. Cette situation du banditisme urbain inquiète de plus en plus la population de Goma. Face à cette montée de l'insécurité, le président de la société civile de Karisimbi demande l'implication du gouverneur militaire pour voir comment éradiquer l'insécurité devenue récurrente dans la ville de Goma en général et en particulier dans la commune de Karisimbi. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Sécurité toujours, la situation reste volatile et confuse dans la région de Tongo et Bukombo, en chefferie de Bouito, mais aussi à Binza, plus au nord du territoire. Nous sommes toujours dans le Nord Kivu. C'est à la suite des affrontements à répétition entre les Wazalendo et les rebelles du M23. Des sources locales dans la région de Bambo affirment que des populations continuent à fuir les villages de Maranga et Ruzenze pour se réfugier vers d'autres ailleurs, notamment vers Rushege, Rushovu et Hoe. À cause des exactions récurrentes et des pillages perpétrés par les hommes armés, la population préfère se déplacer pour se mettre à l'abri. D'autres sources au sein de la notabilité affirment que les groupes armés locaux, comme les Wazalendo, font des incursions répétées dans les villages abandonnés par les rebelles lorsque ces derniers se focalisent ailleurs, ce qui accentue l'instabilité dans cette partie de Rutshuru. Situation pas aussi luisante à Kailo, centre au Maniema. La population s'est réveillée lundi dans une psychose généralisée suite au braquage des bandits à main armée. Ces malfrats ont visité plusieurs maisons, des opérateurs économiques et quelques entités de traitement minier. Comme il fallait s'y attendre, beaucoup de biens de valeur ont été emportés, dont plus de 80 millions de francs congolais chez les négociants et une autre somme importante dont le montant reste inconnu dans le comptoir de Congo Jacin. Un agent de cette société a été molesté. Florence Kizalunga pour plus de précisions.
Selon le président paroissial de la commission justice et paix de Kailo qui a vécu la scène, ces malfrats ont tiré plusieurs coups de balles réels sans être inquiétés de 23h à 2h du matin avant d'opérer. Monsieur l'abbé Alphonse Kitoala s'inquiète du fait qu'il ait pas eu intervention des autorités.
Notre inquiétude est que ces malfrats ont opéré, mais il n'y a pas eu l'intervention de la police ni même du conseil de sécurité local. Malgré les alertes, les appels téléphoniques, mais personne n'est venu au secours de la population. Les autorités policières et armées sont complices de ce que nous avons vécu aujourd'hui.
Consterné, le député provincial de Kailo demande que les responsabilités soient partagées. Kibungi Mutanga Junior.
C'est triste les informations que nous avons reçues. La population a été victime de cambriolages et armes armées. Nous demandons à l'autorité provinciale, son excellence monsieur le gouverneur, de prendre des dispositions pour sécuriser cette population et de dégager les responsabilités. S'il faut sanctionner ce qu'il faut sanctionner, afin que cette population soit apaisée.
Sachez que l'agent molesté se trouve présentement à l'hôpital pour des soins appropriés. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Les policiers de Lubumbashi issus de différentes unités sont appelés à la discipline et au respect de leur serment, à savoir ne jamais trahir le pays. Ces notions leur ont été rappelées par le général Jean Bosco Ngalenga, commissaire général adjoint en charge d'appui et de gestion de la police. C'était au cours de la parade extraordinaire qu'il a présidée au camp est de la commune de Kampemba. Le général de la 22e région militaire, les responsables des services de renseignement et de migration ont aussi assisté à cette parade. Reportage signé Jean Gando.
Cette parade était une occasion pour le général de rappeler la mission de la police à toute l'assistance, à savoir la protection de la population et ses biens. Il a insisté sur la discipline qui doit être de stricte application. La police, a-t-il indiqué, est apolitique. En outre, le tribalisme, les tracasseries et autres actes de vol impliquant les policiers doivent être bannis. Le général Jean Bosco Galenga a aussi précisé que l'accoutrement du policier doit également refléter la discipline et une même unité ne doit pas avoir des uniformes de couleurs différentes. Il a invité les policiers à collaborer avec d'autres services, dont l'armée, le service de renseignement et le service de migration pour le bien de la nation. Il a aussi rappelé aux policiers que la population n'est pas leur ennemi. Le général Jean Bosco Galenga a aussi déploré le fait que certains policiers ne s'empêchent pas de mettre sur la place publique les documents officiels de service à travers les réseaux sociaux. Il en est de même des images qui circulent sur les mêmes plateformes et qui ternissent l'image de toute la police. À l'approche de la mise en place de la commission d'avancement en grade, il a tenu à préciser ce que suit.
Les grades ne se vendent pas, les grades ne s'achètent pas, les grades ne se marchandent pas, les postes ne se vendent pas, les postes ne s'achètent pas, les postes ne se marchandent pas.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Éducation, avec la persistance de la grève des enseignants du secteur public dans la ville de Bandundu, grève amorcée depuis la rentrée scolaire, ces derniers réclament au gouvernement central notamment l'amélioration de leurs conditions salariales. Cette situation inquiète au plus haut niveau certains parents d'élèves de cette ville du Kwilu qui pensent que le calendrier scolaire ne sera pas terminé à cause du retard que cause la dite grève. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution afin que leurs enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Irène Mbomalouzo nous en dit plus dans ce reportage.
Sarah Mbangu est élève dans l'un des lycées de la ville de Bandundu. Elle s'est rendue ce mardi à son école et a été renvoyée à la maison dès l'avant-midi sans étudier.
J'étais partie à l'école le matin, je viens de revenir. Les sœurs nous ont dit de rentrer parce que les enseignants sont en grève. Il n'y a pas d'enseignants.
Cette grève générale et illimitée des enseignants du secteur public commence à peser sur les morales de certains parents de cette ville. Ils se disent inquiets et craignent pour l'éducation de leurs enfants. Voilà pourquoi ces parents en appellent à la responsabilité du gouvernement congolais afin que leurs enfants puissent retourner à l'école.
Bon, moi, étant que parent, ça me dérange. Nos enfants rentrent à la maison et ça nous fait mal.
Nous sommes inquiets pour cette grève qui dure. Les enfants seront en retard et ils ne seront pas terminés la matière qui a été prévue pour le calendrier scolaire de cette année. Que le gouvernement fasse quelque chose et vite afin que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école.
Les enfants ont fait 2 mois à la maison pour les vacances. Maintenant là, les enfants vont encore continuer encore 1 mois, ça fait 3 mois. Maintenant, que faire? Si l'État peut aussi nous trouver la solution pour que les enfants ne restent plus à la maison.
Plus de 3 semaines depuis la rentrée scolaire 2024-2025, presque toutes les écoles publiques de la ville de Bandundu sont restées fermées. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, le Sénat s'engage à défendre les intérêts des institutions commerciales afin d'amener le gouvernement à allouer un budget conséquent pour les investissements et les fonctionnements des provinces. C'est ce qu'a affirmé hier lundi le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, au cours d'une rencontre avec les présidents des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces. Le président du Sénat a aussi échangé avec le gouverneur du Tanganyika qui lui a présenté toutes les difficultés que connaît sa province. Reportage Michel Kifindangoy.
Reçu en premier, Le président des assemblées provinciales affirme être venu soumettre au speaker du Sénat les problèmes auxquels sont confrontées leurs assemblées respectives sur l'ensemble du territoire national. En l'occurrence, les questions relatives aux impayements des députés provinciaux, mais aussi celles liées au fonds d'investissement pour les exécutifs provinciaux et à la rétrocession aux provinces. Alain Tshisungu, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï.
Nous sommes venus soumettre les pommes qui rongent ces assemblées, les pommes des impayements, les fonds d'investissement pour l'exécutif, la rétrocession pour nos provinces. C'est de tout ça qu'ils sont venus soumettre.
Pour sa part, le gouverneur de la province du Tanganyika a soumis au président du Sénat une série de problèmes que connaît sa province. Christian Kitungwa.
Nous avons brossé plusieurs situations, notamment la situation sécuritaire, la situation économique de la province, ainsi que le projet du corridor entre la RDC et la Tanzanie.
Conscient du fait que les sénateurs sont l'émanation des provinces et qu'ils sont les porte-voix de celles-ci au niveau central, le président du Sénat a promis aux autorités provinciales son implication pour des solutions idoines.
Actualité internationale.
Amadou Matambo est décédé ce 24 septembre 2024 à l'âge de 103 ans. Ce grand homme qui fut scout, combattant, enseignant, député opposant, ministre de l'Éducation nationale, puis de la culture et de la jeunesse du Sénégal et qui deviendra le premier Africain directeur général de l'UNESCO, aura traversé son époque avec dignité et grandeur en portant au plus haut les droits et les valeurs culturelles de ceux que l'on réduisait alors au tiers-monde. Federico Mayor, qui fut son successeur à l'UNESCO, avait salué en lui, nous citons, un grand monsieur de ce monde, que l'âme de cet illustre personnalité repose en paix.
L'invité.
Depuis quelques semaines, une résurgence des violences armées est observée en Ituri avec des attaques ciblant des camps de déplacés. Quelle analyse peut-on faire de la dynamique des conflits dans cette province et quelles solutions peuvent atténuer les tensions et favoriser une paix durable? Pour en parler, nous recevons en invité Thomas Ougembero, directeur général du Centre de recherche multidisciplinaire pour le développement en Ituri. Il s'entretient ici avec Martial Papimukeba.
Ougembero Thomas, bonjour.
Bonjour.
Comment votre centre analyse-t-il la dynamique des conflits en Ituri et quelles sont les principales tendances que vous observez actuellement?
Le centre a mené des recherches sur les conflits ituriens et nous avons trouvé que ces conflits est un conflit qui se répète, un conflit séculier, et chaque fois avec une gravité. Les tendances actuelles de ces conflits, nous avons constaté qu'avec plusieurs rencontres des communautés autour de ces conflits, ça piétine parce que quelquefois il y a calme, quelquefois il y a résurgence, tel que pour le moment il y a résurgence de ces conflits au territoire de Djougou, alors qu'il y avait accalmé d'un certain moment donné là de plusieurs mois. Je pensais que ça allait vers la fin. Ces conflits doivent prendre fin avec la détermination de chacun dans la prise de position des communautés en conflit et aussi l'implication du gouvernement tant provincial que national pour mettre fin à ces conflits de l'Ituri.
Vous menez des recherches multidisciplinaires. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette approche permet d'appréhender de manière plus complète les dynamiques complexes des conflits en Ituri?
Ce n'est pas de la magie qu'on fait au Centre de recherche multidisciplinaire pour le développement. Ce sont les mêmes genres de faits qui sont faits à l'extérieur. Je prends l'exemple de l'UNADI qui regroupe l'ensemble des communautés de l'Ituri. Pour votre information, l'Ituri regroupe toutes les quatre souches linguistiques qu'on retrouve en RDC. Nous avons les Bantous, nous avons les Pygmées, nous avons les Nilotiques, nous avons les Soudanais. Au sein de l'UNADI, tous ces groupes sont réunis et parlent le même langage pour que la guerre prenne fin à territoire de Djougou. Que nous puissions vivre comme nous avons vécu par le passé. La guerre fait la honte, la guerre régresse, la guerre n'avance à rien. Donc l'approche du centre de recherche multidisciplinaire, c'est celle qui a trouvé que la meilleure des solutions, c'est de mettre fin à cette guerre qui ne se justifie même pas, qui ne fait que retarder le développement de l'Ituri, du territoire de Djougou en particulier.
Dans vos recherches, quels sont les principaux facteurs externes ou internationaux qui influencent les conflits en Ituri et comment interagissent-ils avec les dynamiques locales?
Les recherches se convergent vers le même résultat parce qu'en dehors des problèmes endogènes, il y a les problèmes aussi qui viennent s'ajouter, se gripper à ces causes-là, Normalement, nous avons trouvé que le point commun, c'est les problèmes de matières premières qui attirent notre malheur. L'or de l'Ituri attire la convoitise des gens de l'extérieur qui viennent soi-disant pour mettre fin soit à cette guerre ou bien qui attisent par des mains noires cette guerre, mais qui arment les belligérants avec des armes et des munitions pour que cette guerre puisse continuer. Donc, il faut que la population prenne conscience que ce sont des gens qui ne leur apportent pas le bonheur. Quelqu'un qui vous amène les armes, des munitions, il ne veut pas de votre paix, il veut plutôt votre destruction. Nous avons trouvé que parmi les facteurs extérieurs, ce sont les gens qui nous amènent des guerres, des armes, parce qu'ils ont besoin de minerais pendant que vous vous battez et ils sont en train d'exploiter. D'ailleurs, avec la nouvelle technique ici, avec des pots-clés là-bas, ils ont plus d'or que de 1999 à 2003, et on exploitait encore ça pour clé, mais aujourd'hui avec le pour clé, le rendement est plus élevé et ça ne profite même pas aux Congolais, mais ça profite à ceux-là qui nous amènent des armes.
Quelles recommandations pratiques votre centre propose-t-il pour atténuer les tensions et favoriser une paix durable à Ituri en se basant sur les résultats de vos recherches?
Nous sommes condamnés géographiquement et sociologiquement de vivre comme par le passé. Donc, par exemple, un alour de Magui est condamné à vivre avec le Lendu qui est son voisin, avec le Lubara qui est son voisin, et un Moulin est condamné à vivre avec le Emma dans le même territoire, et les voisins à Irum, les voisins à Mambasa, et les voisins à d'autres territoires. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble tous. Et pour vivre en paix, il faut promouvoir cette éducation, l'alphabétisation, pour que les gens de l'extérieur ne viennent pas maintenant vous manipuler, à vous donner des armes pour que vous puissiez vous entretuer, détruire les infrastructures, pour que vous puissiez régresser et déplacer d'autres personnes qui ne rentreront peut-être pas dans leur milieu, qui n'étudient pas. Et on voit le taux d'analphabétisme, le taux d'enfants de la rue qui a augmenté ici. Il n'a pas moyen qu'ils puissent étudier. Et les conditions de vie des personnes dans des camps aussi ne sont pas bonnes. Il faut que les gens puissent rentrer dans leur propre conscience pour ne pas écouter les gens de l'extérieur, plutôt aller vivre comme par le passé.
Ougéné Béraud, Thomas, merci.
Je vous remercie.
Voilà, c'est par cette réflexion du directeur général du Centre de recherche multidisciplinaire pour le développement en Ituri que nous bouclons ce journal. Merci à Martin Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Jean-Noël Mokondo.